Rendez-vous, citoyens! Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien.
FPP 106.3 FM, rendez-vous citoyen. Une émission qui s'intéresse à tout un chacun, individu, collectif, association, engagé dans les enjeux de transformation sociale. Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, 18h-19h, rediffusion, troisième mardi, 10h-11h et en podcast. Aujourd'hui, nous avons intitulé notre émission « Nos ancêtres les migrants ». Il s'agit là du titre d'un spectacle, ou plutôt d'une conférence gesticulée de la compagnie des Petits Ruisseaux et du collectif Daja, mise en place par Gérard Noiriel, historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Martine Derrier, comédienne et productrice, qui en a assuré la mise en place. Gérard Noiriel, bonjour.
Bonjour.
Martine Derrier, bonjour.
Bonjour.
Puisque tous les deux sont là, à nos côtés. Alors, avant de vous poser quelques petites questions, j'indique que cette conférence gesticulée, je l'ai vue le 25 janvier dernier au centre de la Tour des Dames, la Nouvelle Athènes dans le 9e. Cette conférence s'appuie sur votre dernier livre, sur ton dernier livre, Gérard, sorti en 2018, ouvrage qui fait la somme de nombreuses années de recherche et d'études, si j'ai bien compris, et intitulé « Une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours ». Alors, petite question pour vous deux, pour commencer. Une conférence gesticulée, c'est quoi, Martine?
Alors, une conférence gesticulée, c'est une conférence qui fait intervenir le public. Gérard parle du sujet, là, en l'occurrence, de l'immigration. Mais il n'est pas complètement conférencier. Et il y a aussi moi qui interviens.
En tant qu'actrice. Un personnage, un Dagobert, un certain Dagobert.
Aussi. Et donc, c'est une conférence où l'on ne parle pas, que l'historien ne parle pas toujours assis à une table. Voilà, il joue son rôle d'historien, mais... Il est amené à gesticuler.
Trois, voilà. Petits accords.
Voilà. Juste pour montrer que je sais tenir une guitare.
Je m'essaye quand même.
Voilà.
Il y a des petites interventions aussi de photos, de projections.
Oui,
il y a de la musique. Graphes.
Des graphiques qui viennent de mes travaux, effectivement.
Voilà. Il y a de la musique, il y a des chansons, vous chantez.
On invite le public à chanter également.
Donc ça, cette démarche de mélanger les sciences sociales et le spectacle, c'est la démarche de Daja,
oui.
De ce collectif. Donc, c'est pas la première expérience que vous faites. Elle a commencé, je crois, avec Chocolat.
Oui.
C'est ça, hein, Chocolat, oui, oui. Gérard, pardon.
Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'étais un des fondateurs de la Cité nationale d'histoire de l'immigration, qui est devenue le musée d'immigration, et on avait fait un petit groupe de préfiguration. À l'époque, c'était Jacques Toubon qui était un petit peu le maître d'œuvre, et avant que la Cité soit créée, Martine en avait fait partie, on avait fait un petit groupe pour justement voir comment on pouvait transposer donc, des connaissances historiques qui soient accessibles à des gens qui n'aiment pas l'école, qui lisent pas les bouquins, etc. C'est parti de là. Puis, on a démissionné. Moi, j'ai démissionné du conseil scientifique avec 7 collègues quand Sarkozy...
À cause du désaccord sur le ministère de l'Identité nationale.
Ça nous semblait ahurissant, ce genre de choses. Donc, du coup, mais le travail qu'on avait fait au sein de ce petit comité, on s'est dit, on a bossé, on avait trouvé des pistes, on avait rassemblé des gens, des artistes, des chercheurs en sciences
sociales.
Dommage
d'abandonner tout ça.
Voilà, des militants associatifs aussi. Donc, on s'est dit, on va continuer. Et c'est comme ça qu'on a créé l'association Daja. Et le premier, effectivement, projet qu'on a eu, ça a été sur le clown Chocolat. C'est nous qui avons redécouvert cet artiste. Et après, il y a eu le film avec Omar Sy, etc. Mais au départ, c'est notre travail.
Et puis, il y a eu d'autres travaux. Hein. Là, j'ai un petit livre, par exemple, qui s'appelle « Contre les discriminations », où il y a aussi des différents types de conférences gesticulées.
C'est-à-dire, moi, je m'amuse aussi le soir, quand j'ai fini avec les gros pavés. J'écris des textes de théâtre. Et c'est ça qui me plaît. Donc, c'est des petites... Sans prétention.
Ça décontracte un peu.
Oui, et puis en même temps, c'est très intéressant du point de vue de l'écriture, parce que c'est une écriture qui est en contact direct avec un public. Donc là, on ne peut pas se planter. Hein. Quand on écrit un bouquin, je dirais, bon, on peut se planter, mais ça n'a pas des effets directs. Il y a des médiations. Tandis que dans un spectacle comme ça, bon, le public, ou il rigole, ou il rigole pas. Si on voulait le faire rire et qu'il ne rit pas, on se dit, on a raté notre coup.
Il faut recommencer. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas été, tout ça. Voilà. Et alors, outre cette question de l'immigration, qui est un des sujets, Gérard, que tu développes, et dont tes recherches sont... C'est un grand pan de tes recherches. Ça a commencé avec un livre sur le creuset français, c'est ça?
Ça a commencé avant.
Même avant?
Oui, j'en profite pour dire, parce que, en fait, moi, j'ai été... Mon intérêt, je dirais, pour l'immigration... Au départ, moi, j'étais plutôt un spécialiste d'histoire ouvrière. D'ailleurs, j'y reviens avec ce livre.
Il y avait déjà, un ouvrage sur les ouvriers, avant le creuset français.
Voilà. Et puis, avant l'ouvrage sur les ouvriers, ma thèse, elle portait sur ce qui s'appelle « Immigrés prolétaires ». C'est sur Longwy, sur les ouvriers sidérurgistes et les mineurs de fer du bassin de Longwy. Parce que moi, j'étais prof dans un collège à l'époque et j'ai été associé à la grande lutte extraordinaire. Voilà.
T'es retrouvé sur les radios, sur une radio.
Et j'ai commencé, je dis souvent, parce que ça m'arrive de critiquer les journalistes, pas évidemment de votre station.
C'est bon, on accepte.
Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Et souvent, je leur dis, bah, écoutez, moi, j'ai été journaliste avant d'être historien, parce que je faisais les émissions de radio à Lorraine Cœur d'Acier avec Marcel Trias.
Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, une radio militante, hein. Enfin, forcément.
Ah, c'était la radio de la CGT. C'était la radio de la CGT. À une époque où on n'avait pas le droit. C'était illégal. Hein. Les radios libres étaient illégales. Il y avait les CRS qui entouraient le truc.
Ah oui.
Et ils n'ont jamais réussi à investir la radio ni la brouiller parce qu'il y avait les gros bras de la CGT.
Ah oui, ça aide.
À l'époque, les sidérurgistes, les CRS, ils n'allaient pas s'y frotter. Hein.
D'accord. Alors. Je vais continuer à présenter. Je vais présenter l'émission, en fait, comment elle va se dérouler. Alors, cette fois-ci, si ton livre, Gérard, Une histoire populaire de la France de la guerre de 100 ans à nos jours, fait référence très régulièrement à la question des migrations, celle-ci ne constitue pas, bien entendu, l'unique objet du livre, puisqu'il s'agit bien d'une histoire populaire de la France, au sein de laquelle, certes, les personnes, les mouvements de population et les migrations participent.
Oui, pour moi, la question des migrations, c'est une dimension de l'histoire populaire.
Voilà.
De même, par exemple, l'histoire coloniale, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est une dimension de l'histoire populaire. C'est ça, c'est cet axe-là que j'ai voulu privilégier, parce que c'est un axe qui rassemble aussi les gens.
Hein. Tout à fait.
Donc c'est un enjeu majeur aujourd'hui de rappeler cette dimension-là.
Alors, comme ton ouvrage est vraiment volumineux, hein, il fait, avec les index, ça fait 700-800 pages, je l'ai quand même bien parcouru, et je vous propose en fait d'aborder une lecture de cet ouvrage à partir de trois directives. La première, c'est la question du processus de construction de l'État français au travers de l'histoire. Comment cet État français s'est construit jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième temps, ça serait de voir comment les mouvements, les révoltes, les évolutions sociales sont à mettre en parallèle avec les relations de pouvoir et d'interdépendance entre les groupes et classes sociales. Je pense que c'est vraiment l'axe, un axe très important de ton livre. Et enfin, autre point très intéressant du livre, qui parcourt aussi le livre, c'est de nous interroger sur tout un ensemble de concepts qui se sont forgés au cours des siècles et qui ont eux aussi été enjeux de rapports de force, de mouvements sociaux et de débats politiques, et qui continuent à l'être. Ces termes, ce sont par exemple les termes de peuple, nation, liberté, citoyenneté, démocratie, nationalité, voire racisme ou aujourd'hui diversité, par exemple. Alors, je ne sais pas si on va arriver à aborder tous ces sujets, mais on va essayer, et dans ce parcours, on fera référence aussi à des éléments du spectacle sur cette question plus spécifique des migrations.
Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3,
rfpp.net.
Fréquence Paris Pluriel, la voix des sans-voix.
Alors, allons-y. Gérard, donc, la construction de l'État français, c'est un long parcours. Avant même... qu'un État français existe. Tu vas nous en dire plus, tu le fais remonter à Jeanne d'Arc. Il y a déjà des tas de migrations sur ce territoire d'aujourd'hui qu'on appelle la France. Pour aller vite, évidemment, les hommes partent d'Afrique et se répandent sur la planète. Mais après, premier millénaire, les Celtes. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, des Celtes ? Ça revient dans le spectacle ?
Ah oui, c'est au début du spectacle. On évoque déjà la question, à l'origine, les Homo sapiens, d'où ils viennent, d'Afrique.
Oui. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard.
On est quelque part tous africains. Et ensuite, on évoque les Celtes. Alors, pour évoquer aussi la question de comment la langue, comment la civilisation s'est forgée, à travers aussi les apports culturels, on dit une phrase. Je vais dans un magasin pour acheter une jupe, une chemise en coton et un gilet. Oui. Et dans les 5 noms qui sont évoqués, il n'y en a qu'un qui est d'origine celte, c'est-à-dire gauloise.
C'est ça, parce que alors là, tu l'as dit, on y est, celte, gaulois. Voilà. Alors là, tu dis un élément aussi très intéressant, c'est Jules César qui nous a ramené l'idée de gaulois.
Voilà, je montre bien que tous ceux qui disent nos ancêtres les Gaulois, par exemple, ils sont victimes du piège du langage, parce qu'il y a une continuité de la langue.
Tu parles du piège de la domination coloniale fixée dans le langage.
Voilà, parce que la domination coloniale, elle existe déjà à cette époque-là.
Les Romains.
Oui, c'est les Romains qui vont désigner les Celtes comme des Gaulois. C'est pas eux, ils n'avaient pas de langue écrite.
Nommer le territoire aussi.
Oui, qui vont nommer le territoire, les régions, etc. Et ce que j'explique, c'est aussi que celui qui détient l'écriture dans l'histoire, il détient le pouvoir. Et ça s'est reproduit après avec la colonisation de l'Afrique, etc. Parce que c'est une manière de fixer, quasiment pour l'éternité, une représentation. Donc on le voit dès la construction début de la Gaule, on voit ces enjeux de pouvoir qui se réalisent.
C'est ça. Donc, les Celtes de l'Est, et puis après, il y a d'autres arrivées de l'Est, la chute de l'Empire romain, et donc les Visigoths, les Francs, les Burgonds, qui arrivent aussi sur ce territoire qu'on appelle aujourd'hui la France, mais qui est loin à cette époque-là de constituer la France.
Ben oui, parce que là, on a, disons, on pourrait dire des tribus. Alors, après, il y a une manière...
D'ailleurs, on les nommait peuples.
Oui, on les nommait peuples, justement, mais c'est pour glorifier Clovis. Enfin, il y a tout un roman historique que certains véhiculent encore aujourd'hui.
Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le concept de peuple, on y reviendra d'aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut dire tribu. Mais dans le vocabulaire, quand il y a eu la colonisation, pour dévaloriser les Africains, on a dit, c'était des... ils vivaient dans les tribus, mais nous, c'était des peuples. Vous voyez, il y a des enjeux du vocabulaire qui sont très importants. Ouais. Donc, c'est ce qu'on déconstruit aussi dans le spectacle en faisant jouer un personnage qui est un peu bébête là,
Dagobert.
Dagobert,
c'est une migration interne.
voilà. Hein, c'est ce que.
Oui, c'est ça. La question des migrants internes à la France, des provinciaux qui viennent à Paris, sont souvent un peu considérés comme un peu
Des étrangers,
voilà. Ouais. Donc moi je viens de Bresse. Je suis.
Parce que c'est autobiographique, on ne le dit pas dans le spectacle. En fait,
c'est vrai.
C'est pour ça qu'on parle. Effectivement de soi, dans une conférence gesticulée. C'est aussi
une
formule où l'on peut parler de soi. Et donc effectivement, c'est un petit clin d'œil.
Dagobert parcourt le spectacle. C'est celui qu'on interpelle à chaque fois, qui met sa moustache ou qui l'enlève. Moustache, c'est Dagobert, sans moustache,
c'est Martine. C'est la comédienne.
Je fais même une différence entre moi et puis la comédienne. Avec différents chapeaux, différentes façons de jouer. Mais bon, Dagobert, c'est un personnage qui est imprégné de ce qu'il a pu entendre à l'école, dans les manuels scolaires, ce qu'il peut entendre maintenant sur BFM TV. Et il n'est pas complètement idiot, mais bon, il est naïf. Il a des préjugés, mais qui ne sont pas forcément dus à son niveau de QI. Quoi.
On ne sait pas si Dagobert était si naïf que ça, mais en tout cas, vous le prenez comme ça. C'est le 6e siècle, Dagobert.
Ah oui, Dagobert, oui, c'est les, les Mérovingiens. Hein, ouais. On connaît la chanson, le bon roi Dagobert a mis sa culotte en revers. C'était une manière de le dévaloriser, mais on a très peu de récits hein, sur, de cette époque-là. C'est ce qu'on montre aussi dans le spectacle, quand on dit les barbares, les grandes invasions. Oui. C'est parce qu'on a quelques moines qui ont écrit des chroniques qui ont servi à fabriquer les premiers manuels d'histoire. Aujourd'hui, on a beaucoup d'autres sources. On a
là encore, c'est un écrit qui a fixé les choses.
Voilà, c'est ça, c'est encore l'écriture. C'est pour ça que l'histoire a été renouvelée à l'époque contemporaine, quand on a eu des archéologues, par exemple, qui ont trouvé, donc ça a été une source tout à fait considérable pour montrer la diversité et la multiplicité des migrations dès cette époque-là. Mais beaucoup, on n'en avait jamais parlé parce qu'ils n'étaient pas dans les chroniques, parce qu'on ne parlait que des trucs violents, des guerres, etc. etc.
D'accord. Et là, on n'est même pas encore à ce qu'on appelle la féodalité.
Voilà. Alors, ce qui se passe, hein, c'est qu'il y a un État, il y a un embryon d'État mérovingien, carolingien, avec Charlemagne, mais ce sont des États qui sont extrêmement fragiles parce qu'ils n'ont pas la bureaucratie, n'ont pas la force suffisante pour maintenir le pouvoir du roi.
Donc, il y a des petits États, des petits seigneurs partout.
Voilà, qui finissent par complètement prendre s'émanciper, on pourrait dire, par rapport au pouvoir royal. Et c'est la féodalité. Oui. Donc là, on a quasiment des seigneurs qui sont maîtres sur leur territoire. Et donc, il va y avoir une lente reconstruction du pouvoir royal qui va se faire à partir de Paris, de l'Île-de-France. Au début, la France, le français, le francilien, c'est un dialecte. C'est le dialecte qu'on parle en Île-de-France. Non. Et ces rois de France, donc, qu'on appelle capétiens, parce que le premier, c'est Hugues Capet, vont progressivement accumuler de la richesse, que c'est une région riche entre la Seine et la Loire, de la puissance, des mariages astucieux, etc. Petit à petit, donc, l'État monarchique va se développer, notamment avec Philippe Auguste. Hein, on a déjà une bonne partie du royaume de France qui correspond à la France d'aujourd'hui. Et puis, il y a la guerre de Cent Ans, qui remet tout en question.
La guerre de Cent Ans, on va y arriver, Jeanne d'Arc. Mais alors, sur ce temps de seigneur, la population, elle est en relation directe avec le seigneur, en fait.
Voilà.
Elle n'a peu à voir avec le roi.
Peu. Il y a un vague souvenir qui existe en roi, mais quelque part, c'est souvent d'ailleurs dans les églises, hein, que c'est l'église qui joue ce rôle mémoriel.
La légitimation du roi,
parce que c'est le roi qui s'en présenté comme de droit divin.
Oui.
Hein, et,
suite à la conversion de Clovis avant Constantin.
Il y a une alliance qui est passée entre l'Église catholique, parce que quand l'Empire romain s'est écroulé, les seuls qui vont maintenir une continuité, c'est l'Église. C'est dans l'Église chrétienne que l'écriture, la culture écrite va se maintenir. Et donc, ça va être à partir de là que Clovis, il va comprendre qu'il fallait qu'il s'allie à l'Église pour pouvoir légitimer son pouvoir. Lui, il avait la force, les autres, ils avaient ce qu'on appelle le pouvoir culturel, le pouvoir symbolique. Et c'est cette alliance-là qui va tisser, finalement, cet État qui deviendra l'État
français. Donc, entre les seigneurs et le peuple, c'est une allégeance. Ils ont droit de vie et de mort sur...
quasiment. Donc, les seigneurs les obligent à payer des impôts énormes.
L'impôt existe déjà, mais local.
Et religieux, il y a la dîme. Il faut payer aussi un impôt au curé. Et donc, il y a des révoltes, mais elles sont, évidemment, à l'époque, réprimées dans le sang. Il n'y a pas de quartier.
Parce que les révoltes partent souvent de la contestation de l'impôt, en fait.
C'est pour ça qu'il y a un petit clin d'œil aux gilets jaunes.
Ouais. Tout à fait. Le clin d'œil aux gilets jaunes, parce que Dagobert, Attends, c'est quoi son histoire? Il a une poule ou
Martine. Comme je suis originaire d'un petit village de Bresse où l'on élevait des poulets au maïs et qui leur donnait la peau jaune. Effectivement, moi, quand je suis arrivée au lycée, on m'appelait la ventre jaune. J'ai repris ça au masculin. Mais
ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que les humiliations, la stigmatisation, elle peut exister parfois d'un village à l'autre, des paysans pour les villes, etc. C'est pas une question uniquement de gens qui viennent de loin. Ça peut fonctionner.
C'était vraiment tout proche, puisque la Bresse et la Saône-et-Loire, c'est vraiment à côté. Quoi. Il y a juste la Saône qui sépare.
D'accord, j'ai essayé de retrouver une phrase où tu parles justement des préjugés, en fait, que les préjugés, ils sont partagés par tout le monde. Voilà. Voilà, ce qui différencie, j'ai retenu, je n'ai pas retenu beaucoup du livre, mais bon, quelques-unes. Ce qui différencie les êtres humains, ce n'est pas le fait d'avoir ou non des préjugés, mais de pouvoir ou non les imposer aux autres.
Voilà, alors ça, pour moi, c'est très important. Moi, j'ai long, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai travaillé sur l'histoire des migrations depuis 30 ans, donc c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. Et je milite pour qu'on rétablisse la distinction entre préjugés et racisme. Tous les préjugés, on ne peut pas mettre une équivalence avec le racisme. Parce que sinon, on occulte la dimension du pouvoir. Et pour moi, c'est fondamental. Les préjugés, ça a été étudié par les anthropologues. Tout le monde a des préjugés. Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, quand il vivait avec les Nambikwara en Amazonie, il a montré que ces gens-là aussi avaient des préjugés. C'est la culture, c'est l'ouverture d'esprit qui nous permet de les échapper. Mais il y a une différence majeure entre, si tout le monde a des préjugés, tout le monde n'a pas le même pouvoir pour imposer aux autres ses préjugés.
Et le racisme, ça passe par une...
Voilà, ça passe par une relation de pouvoir. C'est très important de le rappeler.
On y revient. Brasson, rapidement, on va faire une petite pause. Donc, la féodalité, on arrive à la monarchie. Et la monarchie, c'est le rapport du sujet au roi.
Voilà.
On est sujet.
On est sujet du roi. Et je dis que le peuple français est né à l'époque de la monarchie, au début de l'État, parce que tous les sujets du roi avaient un point commun, c'est qu'ils dépendaient justement du roi, et la dépendance se manifestait par l'impôt, qu'on appelait la taille, qu'il fallait payer au pouvoir royal. Donc c'est le point de départ, à mon avis, aussi du peuple français.
Ça, tu le situes autour de Jeanne d'Arc
À l'époque, oui, de Jeanne d'Arc, parce qu'avant, l'État, il existait déjà embryonnairement, j'en ai parlé avec Philippe Auguste, mais il était fragile. Et la guerre de Cent Ans, elle aurait pu tourner autrement. Si le roi de France avait perdu la guerre, la France n'existerait plus aujourd'hui. On aurait un autre État, c'était les États bourguignons, on appelle ça, qui correspondait à la Lotharingie, qui allait en gros des Pays-Bas jusqu'à l'Italie du Nord. C'est ça qui serait imposé. Mais en partie grâce à Jeanne d'Arc, il ne faut pas exagérer le rôle de Jeanne d'Arc, mais il y a un retournement de situation. Et donc finalement, le roi de France gagne la guerre de Cent Ans, les Anglais sont chassés... remis sur le Rhin, je dirais. Ouais. Et du coup, eh bien, c'est Charles VII qui impose son pouvoir et qui impose définitivement l'impôt, justement, régulier. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a un impôt régulier prélevé sur tous les sujets, sauf sur les privilégiés.
Oui, il faut le rappeler. Les privilégiés, ils ont mis longtemps avant de payer l'impôt. C'est la Révolution qui a installé une partie de l'impôt vers les privilégiés.
Ça, c'est une leçon de l'histoire, c'est que les gens ne cèdent jamais leurs privilèges si on ne les oblige pas.
Exact.
D'où la nécessité de faire des révolutions.
Et là, on devient citoyen de la République, non plus sujet.
Voilà. Oui, parce que là, il y a un bouleversement, évidemment, avec la Révolution française. Être citoyen... C'est pas que de plus payer d'impôts, mais c'est le consentement à l'impôt. C'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Citoyen accepte de contribuer à la vie de la nation économiquement, mais d'abord, il faut qu'il consente et il doit savoir ce qu'on fait de ses impôts. C'est fondamental.
Et puis, l'impôt est universel, a priori.
Oui, voilà. Alors, il y a un principe de base, c'est que tout le monde doit payer en fonction, évidemment, de ses ressources.
Très bien. Donc le développement de l'État français, on l'a vu, il s'est fait parallèlement au développement de l'impôt. Tu en as parlé aussi parallèlement au développement de l'écriture, très important.
Oui.
Parallèlement au développement de l'armée, ce qui va avec l'impôt souvent.
Ben oui, parce qu'il faut avoir des ressources pour payer les soldats, il faut des soldats pour récupérer l'impôt. Il y a là un lien logique imparable.
Ouais. Et puis après, l'assise du pouvoir, c'est aussi la monnaie. Puisqu'on peut, y a une communication à distance. Enfin, il y a l'écriture, c'est une communication à distance, mais la monnaie aussi, c'est l'échange à distance.
C'est ça.
Enfin, c'est-à-dire, on passe plus par.
Pour moi, c'est très important. Ça aussi, moi, j'ai une double formation d'historien et de sociologue, et donc la question du lien social, ça m'importe beaucoup. Et le lien social, il y a deux grands types de liens sociaux. C'est le lien direct, comme on se parle là aujourd'hui, mais avec les auditeurs, c'est déjà plus du lien direct, parce qu'il y a la médiation de la technique, mais la parole est du lien direct, et puis il y a le lien indirect. Et on voit dans l'histoire que progressivement, les liens à distance se sont développés, et ceux qui maîtrisent les liens à distance, c'est souvent ceux qui ont le pouvoir. Marx parlait du capitalisme, il parlait des fils invisibles du capitalisme, et il montrait bien que c'est la monnaie. Celui qui détient la monnaie, il l'appelait l'homme aux écus, Hein, il peut obliger celui qui n'a rien à travailler. C'est plus comme au temps des esclavages, où l'esclavage où on force physiquement la personne. Ouais. Mais si vous n'avez rien à manger, vous êtes bien obligé de travailler dans l'usine du patron. C'est cette logique du pouvoir véhiculé à la fois par l'écriture. Sans écriture, il n'y a pas de bureaucratie, donc il n'y a pas d'État.
Voilà. Il n'y a pas d'administration.
Il n'y a pas d'administration, parce que comment le souverain, comme on dit, le chef d'État, comment il fait pour gouverner des gens qui sont très loin de lui ? C'est par le biais de la bureaucratie. Hein ? Et comment le capitaliste impose ce pouvoir ? C'est par le biais de la monnaie.
Et ce pouvoir administratif, il s'est renforcé sous Louis XIV.
Voilà.
Très fortement.
Très fortement. Louis XIV, c'est un malin. Hein, c'est l'État, c'est moi. Hein, voilà. Et puis, divisé pour régner, c'est du Louis XIV. Hein. Mais parce qu'il a vécu un traumatisme, Louis XIV. Quand il était adolescent, jeune adolescent, 14 ans à peu près, il y a eu la Fronde. La Fronde, c'est le dernier soubresaut où la famille royale est menacée de disparaître, etc. Et Louis XIV le voit avec ses yeux d'enfant.
Dernière tentative des seigneurs, voilà, de ne pas laisser la place.
Et l'alliance entre les bourgeois et les nobles aussi.
Voilà.
Et c'est à deux doigts de marcher. Alliance bourgeois-noble plus peuple de Paris.
On revient tout à fait sur ce sujet. On rentre dans les mouvements, les révoltes, les évolutions et justement les relations sociales, groupes sociaux. Après une musique de Pierre Vassiliou. Qui c'est celui-là ? Vous aviez choisi ça, Martine, pour le spectacle ?
Oui, parce qu'il était d'origine roumaine. Hein, et, donc,
Son père a vécu aussi
l'antisémitisme et les formes de discrimination qui jalonnent tout notre spectacle. Hein. C'est vraiment un spectacle qui parle des discriminations de tout genre.
Je ne suis pas un playboy, je ne fais pas de mine. Avec ma grosse moustache et mon long nez de queen. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux filles, elles veulent toujours m'emmener coucher dans leur famille. Et leur mari disait de moi.
Qui c'est celui-là ? Complètement toqué, je m'éclate. Complètement gaga. Il a une grande tête, je dis pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Et puis champagne, les gars.
Ce n'est pas de ma faute à moi si les femmes mariées préfèrent sortir avec moi pour jouer à la poupée. Elles aiment mes cheveux blonds et mes yeux polissons. Mais je crois que ce qu'elles préfèrent, c'est mon petit ventre rond. Et leur mari disait de moi.
106.3 FM. Rendez-vous citoyens, l'émission une fois par mois, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, toujours avec Gérard Noiriel et Martine Derier. Pour le spectacle Nos ancêtres, les migrants, et le livre de Gérard Noiriel, Une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours. Alors, il a une drôle de tête, celui-là. Qui c'est celui-là ? C'est par exemple les Roms aussi. Hein. On a les Roms qui sont arrivés au 15e, au moment de Jeanne d'Arc aussi. Hein.
Oui, et c'est pour ça que dans le spectacle, on évoque ces migrations, parce que beaucoup de gens, parmi les préjugés aujourd'hui, beaucoup de gens croient que les Roms viennent de Roumanie il y a un an, deux ans, etc., etc. Mais en fait, ils sont constitutifs de la société française, puisque les premières archives qu'on a retrouvées, hein, on le cite dans le spectacle, Martine lit un texte.
Ancien français. Et qui le regard d'un bourgeois sur une femme qu'il décrit.
Avec des cheveux noirs,
des cheveux crespés, voilà. Enfin,
tout un... Et, comme un vagabond,
j'essaye
en fait.
J'essaye d'exprimer ce texte exactement comme il est écrit, parce qu'on retrouve comme ça la sonorité du vieux français. Et en fait, à la fin, ça se termine, il pense que c'est une sorcière.
C'est donc, les bohémiennes, parce qu'elles lisent les lignes de la main.
Déjà, c'est le...
Mais ce qui est intéressant,
oui, c'est le thème de la sorcière.
Ce qu'on veut montrer, c'est que c'est on les appelait pas Roms à l'époque, hein, on les appelait Égyptiens très souvent, ou Tziganes, etc.
Ils arrivaient d'Inde.
Oui, ils arrivaient d'Inde, mais il y a eu des migrations qui ont duré plusieurs siècles, progressivement. Ah oui, et ceux qui arrivent, donc les premiers qu'on repère, en tout cas dans les archives, c'est au début du XVe siècle. Et ils se fixent beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux se fixent. Et après, aujourd'hui, il y a des gens qui sont descendants de ces gens-là, on n'en sait plus rien.
On n'en sait plus rien du tout. Ouais.
C'est ça qui me paraissait intéressant de montrer aussi, pour sortir un peu de ces stéréotypes de nos ancêtres, les Gaulois, etc. C'est que ces échanges ont été multiples, avec des apports de tous horizons. Donc, c'est ce qu'il faut rappeler. C'est la richesse d'une société.
Cette richesse de société, c'est ce que tu défends dans ton livre, en fait, c'est que les mouvements, les révoltes, les évolutions sociales se sont faits dans des enjeux de pouvoir, dans des interdépendances entre les groupes sociaux, entre les classes sociales, ce qui n'a rien à voir avec notre histoire monarchiste.
Voilà.
Hein, oui. Pour toi, c'est un peu histoire monarchiste versus histoire populaire.
Voilà, alors au début du livre, je définis ce que j'entends par le populaire, parce qu'évidemment, ce livre, en fait, c'est l'éditeur qui me l'a commandé il y a une dizaine d'années.
Les éditions Agone,
parce qu'ils avaient publié la version française d'une histoire populaire des États-Unis, d'Howard Zinn. Donc, ils me demandaient si je pouvais faire la même chose. Et en y réfléchissant, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus faire exactement ce que Zinn avait fait dans les années 70. Et j'ai pris un axe qui était de distinguer le populaire et classe populaire. C'est une histoire populaire, ce n'est pas une histoire des classes populaires. Et c'est en ça que pour moi, le populaire, c'est une relation. Oui. C'est une relation de pouvoir entre les dominants et les dominés. Hein, parce que même les classes populaires, la définition qu'elles se donnent d'elles-mêmes, c'est jamais, ça tombe pas du ciel. C'est souvent le regard que les dominants ont porté sur elles, qu'elles retravaillent et qu'elles transforment, qu'elles contestent, etc. Donc je montre dans le livre que la façon de nommer les classes populaires, la plupart du temps, ça vient des élites. Mais après, il y a un travail, il y a des révoltes, il y a des luttes qui font que les classes populaires s'emparent des définitions souvent péjoratives que les dominants ont données d'elles et les transforment. Et du coup, les dominants sont obligés de changer aussi de vision des choses.
Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que classe populaire, ce n'est pas un bloc. C'est loin d'être un bloc.
Oui, oui.
Il y a, par exemple, des petits nobles, des nobles très riches, il y a des colons pauvres, des colons avec des grandes propriétés.
Voilà,
il y a des bourgeois miséreux, des bourgeois...
Voilà. C'est quand on prend au sérieux la notion de relation de pouvoir, on ne peut plus être dans une vision où il y aurait deux blocs, les dominants et les dominés. C'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, j'essaye d'intégrer aussi la domination masculine, c'est-à-dire le pouvoir des hommes sur les femmes. Et je montre comment ça joue, même dans la royauté. Puisque le pouvoir, le trône, il se transmettait par les mâles. Le problème, l'un des plus grands problèmes qui explique les révoltes populaires, c'est la vacance du trône. On n'a pas d'héritier mâle. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Et donc, voilà, il y a les régentes.
Enfin, il y a les régentes, souvent.
Qui souvent, elles jouent sur les interstices, elles peuvent récupérer du pouvoir. C'est une relation compliquée. Les dominés, ils ne sont pas sans possibilité de réaction, etc. Donc, j'analyse ces questions-là. La question des migrations, c'est souvent une relation de pouvoir à l'intérieur des classes populaires aussi. Hein, faut bien voir ça. L'immigration, les clivages qui peuvent exister au sein des classes populaires, qui sont exploitées par les capitalistes ou par les patrons, par l'État, c'est aussi des formes d'inégalité au sein des classes populaires que j'essayais de prendre en compte.
C'est ce que tu indiquais avant de la musique là, de Vassilius, c'est que, par exemple, pendant la guerre de Cent Ans, il y a des alliances, on pourrait dire presque contre nature, ou en tout cas qui pourraient le paraître aujourd'hui, entre noblesse et peuple, ou paysans
Oui, hein, ben parce que les dominants, quand ils sont une bonne partie de l'histoire, c'est des luttes au sein, entre différentes fractions des dominants. Hein. Mais ils ont besoin du peuple, parce que le peuple, c'est la force. Donc à chaque fois...
C'est le nombre.
Voilà, c'est le nombre. Et puis la violence, quand le peuple de Paris se soulève, on appelle les journées des barricades, ça fait mal. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une force qu'ils essayent de mobiliser, de contrôler pour leurs propres intérêts. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est quand le peuple se mobilise, il ne fait pas de quartier. Il ne va pas faire des petites distinctions entre les différentes fractions des classes dominantes. Donc, les autres prennent peur. Et ceux qui avaient activé le peuple au départ... prennent peur et se retournent contre le peuple. Et il y a une alliance de nouveau qui se fait entre les différentes fractions des classes dominantes contre les classes populaires.
C'est ça, il y a des alliances de circonstances.
Voilà, des alliances de circonstances, mais très très souvent, la peur que suscitent les classes populaires quand elles se mobilisent fait que les dominants font cesser leur querelle interne et se réconcilient pour taper sur les pauvres.
Alors, est-ce que tu peux nous donner petits exemples de ça, par exemple, sur la période soit de la guerre de Cent Ans, soit des guerres de religion ? Parce que ce qui est intéressant dans ton livre, c'est, il est agréable à lire pour ça, c'est qu'il y a des tas d'exemples comme ça de révoltes. En fait, on s'aperçoit qu'il y a eu des révoltes tout le temps, dans tous les siècles, en continu presque.
Oui.
Dans au nord de la France, au centre,
au sud-ouest, les croquants, etc.
Voilà.
Voilà. Et souvent, on va cette dialectique là entre les groupes, entre les classes, c'est là qu'elle se développe.
Voilà, oui.
Au départ, souvent contre l'impôt ou contre le pouvoir du roi.
Voilà.
Alors, un ou deux petits exemples comme ça.
Les guerres de religion, c'est un bon exemple, oui. Puisque, en fait, donc, les guerres de religion, moi, j'ai étudié plus particulièrement l'exemple de l'Alsace, puisque j'essaye dans le livre aussi de faire un tour de France. Enfin, parfois, je prends des exemples. Je ne pouvais pas citer tous les exemples que j'avais, donc à chaque fois, j'en choisis dans différentes régions, etc. Et là, c'est très intéressant, parce qu'on voit, en Alsace, ils parlent l'allemand, donc il y a Luther, le message de Luther.
Donc le mouvement protestant, enfin la réforme.
Le mouvement protestant, la réforme. Mais Luther, lui, le peuple, il s'en fout complètement. Lui, ils sont dans une querelle interne entre des élites. Hein. C'est une querelle au sein des élites catholiques, au départ, cette affaire-là. Hein. Les thèses de Wittenberg, etc. D'ailleurs, il les publie en latin. Donc, ce n'était pas le peuple qui allait lire le latin. Mais aussitôt, il y a des gens qui vont traduire ça en allemand. Et il y a des artisans qui vont s'en emparer parce qu'ils savent lire et écrire, les artisans, la différence des paysans. Et ils y voient, eux, un message de libération. Et donc, ils interprètent ça. Et justement, ils disent, on en a marre des curés, ils nous pompent nos ressources avec la dîme.
C'est avec la dîme, avec l'impôt,
oui.
Avec la corvée.
Les corvées, etc. Et donc, il y a cette mobilisation donc des artisans, au départ, qui entraîne les paysans dans une lutte des classes qui s'approprie le message, qui voit dans le protestantisme un message libérateur. Mais Luther, lui, il ne va jamais soutenir ce mouvement-là. Il va, au contraire, encourager les seigneurs et les villes à réprimer les mouvements des paysans. Il va se tourner contre le peuple, du côté des puissants. Même chose pour Calvin. Ouais. Calvin, c'est pas du tout un révolutionnaire. Hein, c'est quelqu'un qui, au contraire, défend les dominants et dit Dieu a dit qu'il fallait pas se révolter. En gros, hein, je caricature, mais c'est ça. Hein. Donc, il y a du coup un désenchantement. Par exemple, la ville de Lyon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est une ville qui va être très sensible au calvinisme. À un moment donné, les calvinistes prennent le pouvoir. Mais comme le peuple, les ouvriers, tout ça, ils voient que finalement les protestants font la même chose que les catholiques, qu'ils ont changé de maître, et bien du coup, il y a un désenchantement et les catholiques en France vont récupérer le pouvoir. C'est aussi lié au désenchantement des classes populaires par
d'où
rapport
les Nantes.
Voilà, après, donc lui, et après, il y a Henri IV qui essaye de. Voilà, qui était protestant, qui se convertit au catholicisme. Et puis,
Des allers-retours un peu.
Des allers-retours. Et l'édit de Nantes, qui est effectivement un édit de tolérance, qui est important hein, dans l'histoire de France, parce que c'est la première étape dans la construction de ce qu'on appelle la laïcité aujourd'hui.
Ouais.
Hein, c'est-à-dire un État...
Mais qui est révoqué par Louis XIV.
Qui est révoqué par Louis XIV, qui lui fait machine arrière, et voilà.
Bien. Et alors, il y a un autre point aussi, puisque en reparlant de nos migrations, les migrations, c'est souvent... nommés aussi comme les vagabonds. Et puis, finalement, les vagabonds, ça devient des galériens, des exilés, des gens qu'on envoie vers les colonies.
Voilà.
Hein, les colonies du 17e, justement, sous Louis XIV et 18e, qui se mettent en place très fortement.
Oui.
Oui, oui. Et donc là, il y a aussi tout un brassage de peuples.
C'est pour ça que dans le spectacle aussi, on parle de la question de l'esclavage, c'est-à-dire des migrations forcées. On les intègre dans le spectacle, comme j'en parle dans le livre. C'est une dimension de l'histoire populaire de la France.
C'est ça pour toi.
Oui. Les départements, oui. Les régions d'outre-mer, etc. C'est la France aujourd'hui, d'où une grande importance. Et je montre aussi que aux Antilles, par exemple, Guadeloupe-Martinique, il y a à un moment donné une alliance entre les petits colons. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que la grande majorité des colons, c'était des petits colons.
Voilà, aujourd'hui, ça m'a... Oui. C'était oui. Deux tiers. Tu parles de deux tiers de petits colons. Quoi. Pauvres, plus ou moins.
Et qui sont déçus parce qu'ils espéraient faire fortune, etc. Et puis, il y a ceux qu'on appelle les 36 mois. Les 36 mois, c'était des pauvres, des vagabonds, des paysans sans ressources, etc., qui étaient achetés par des colons, donc depuis la France.
Des engagés, c'est ça ?
Oui, des engagés pour 36 mois. C'est-à-dire qu'ils étaient esclaves pendant 36 mois, c'est-à-dire pendant 3 ans. Hein. Et on les amenait là-bas. C'est les premiers esclaves qu'il y a eu, en fait.
Des esclaves
blancs.
Avant
les esclaves africains, c'était des esclaves blancs. Et tout ce prolétariat-là, à un moment donné... Ils tissent des liens avec les Africains, les esclaves africains. Ils tissent des liens avec les Kalinagos, c'est-à-dire les premiers habitants, hein, les Amérindiens.
Ceux qui disent, les Kalinagos, que la couleur noire est vraiment celle
c'est
qui...
Super, c'est mieux
super,
que le blanc. Voilà.
C'est
c'est très intéressant quand on a les récits des explorateurs. Parce que... Et à un moment donné, donc, les colons les plus riches, surtout quand il y a le basculement vers le sucre, hein, vers l'industrie sucre, ils prennent peur. Ils se disent, si vraiment il y a une alliance entre les pauvres blancs, les esclaves et les Kalinagos, on est foutus. C'est ça qui va développer la racialisation.
C'est ça.
C'est-à-dire
le concept qu'on va aborder tout à l'heure. Voilà. Ça fait partie. Voilà.
La catégorisation de la couleur de peau comme une équivalence d'une race. Hein.
Donc, qui permet de scinder en fait le prolétariat.
Voilà, et d'opposer les gens les uns entre eux, les uns aux autres. Et ça va marcher malheureusement. Hein.
Oui.
Et donc on inculque cette idée. Ah ben on est blanc, donc on est supérieur aux noirs. Mais c'était pas comme ça au début. Hein. C'est une construction sociale et aussi étatique, hein, puisque l'État au XVIIIe siècle fixe des catégories raciales.
Effectivement. Alors, pour aller dans ce sens-là, c'est souvent les colons plus miséreux, tout ça, qui développent le mixage, le mariage mixte.
Oui,
hein.
Oui, il y a énormément de mixité. Et je dirais que c'est le paradoxe des formes de résistance parfois. Parce qu'on sait que dans l'Empire colonial, il y a des formes de résistance qui sont connues, ce qu'on appelle le marronnage. Hein,
oui, la fuite, en fait, des esclaves.
Qui fuient et puis qui vont dans la montagne, etc. Mais en fait, statistiquement, c'est très faible. Hein, faut pas exagérer cette façon de lutter. Mais il y a d'autres formes de lutte, notamment les femmes. Puisqu'il y a une disproportion des sexes, eh bien les femmes, en créant du métissage, parce qu'elles sont en concubinage avec des colons, etc., ils vont avoir des enfants. Et ces enfants, ils font exploser les catégories raciales, puisqu'ils sont métis, justement.
Voilà.
Et donc, il y a toute une... et ça va aboutir à la Révolution, à Saint-Domingue, hein, au moment de la Révolution française, c'est aussi lié à ces questions qu'on appelle les mulâtres, hein,
oui.
Qui sont... Voilà,
parce qu'il y a aussi tout le processus d'émancipation qui peut prendre différentes façons.
Oui.
Souvent, par exemple, si pour bons et loyaux services, pendant 20-30 ans, finalement, les esclaves pourront être émancipés ou pour beaucoup de familles.
C'est ça. C'est toute la complexité des relations de pouvoir à caractère domestique. C'est-à-dire, il peut y avoir une violence extrême. Hein. Les colons peuvent être d'une violence, ils peuvent tuer leur esclave. D'ailleurs, l'État, Louis XIV, va essayer de réfréner cette violence-là. Mais en même temps, ça peut aller complètement dans l'autre sens.
C'est ça.
Il y a des relations d'amour, d'affection, etc. Il y a tout un processus d'émancipation. Parce que très souvent, dans les familles de colons, quand un enfant naissait, un enfant blanc, disons, de colons, on lui affectait un jeune esclave comme compagnon de jeu. Hein. Et cet esclave, qui était un enfant aussi souvent, ou un ado, etc., grandissait, etc. Et souvent, les liens d'amitié qui se tissaient faisaient qu'il pouvait être émancipé. Donc il y a toute une logique de l'émancipation qui peut passer par des relations domestiques aussi.
Et puis il y a aussi, parce que ce n'est pas possible de tout bloquer, il y a des mouvements de population vers l'Hexagone qui accompagnent les familles.
Voilà.
Et comme on est sur le territoire du roi, on est émancipé d'office.
D'office. Et ça, les colons ne vont pas le supporter. C'est pour ça qu'au XVIIIe siècle, ils vont faire pression sur l'État monarchique et il va y avoir la police des Noirs qui va être créée, interdisant aux colons de venir avec des esclaves noirs en métropole et interdisant les mariages mixtes. Parce qu'il y avait déjà de très nombreux mariages mixtes. On estime à peu près plusieurs milliers hein, d'esclaves africains qui sont venus donc, des Antilles ou de Guyane ou de Réunion dans l'Hexagone. Et ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Et voilà, ils sont fondus aussi dans la population française.
Oui. Alors bon... Parcourons rapidement, il y a aussi, après, il y a d'autres colonies, les colonies du 19e siècle, voilà, oui. Vers le Maghreb, le Vietnam, la Nouvelle-Calédonie. Là aussi, il y a beaucoup de croisements, de rencontres. Ça, c'est aussi des colonies forcées.
Alors, il y a en fait, dans le nouvel empire colonial, qui est l'empire républicain, hein, qui commence avec la Troisième République.
Là, on n'est plus dans la monarchie. Hein, la République aussi a su faire des colonies. Quoi.
Voilà, bien que la colonisation de l'Algérie commence avant, mais globalement, on a deux colonies de peuplement, c'est la Nouvelle-Calédonie et l'Algérie. Ça, c'est deux colonies de peuplement. Les autres colonies sont des colonies de protectorat avec un petit nombre de colons qui dirigent, quoi, mais qui ne sont pas très présents dans la population. Et les deux colonies de peuplement, évidemment, ont des statuts très différents. Le cas tout à fait original, qui est d'actualité aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est l'Algérie, parce que voilà, il y a des liens là extrêmement forts qui se tissent. La Nouvelle-Calédonie, c'est différent parce que c'est une colonie pénitentiaire. Donc, on envoie les communards, par exemple, comme Louis Michel, etc., qui étaient envoyés là-bas, ou bien des condamnés de droit commun. Donc, ça crée des... Prisonniers, chaque colonie a sa spécificité.
Oui. Et puis, 19e siècle, il y a aussi des réfugiés, la question des réfugiés, notamment réfugiés juifs, réfugiés italiens, des fascismes.
Voilà, oui. Alors ça, c'est un point qu'on aborde dans le spectacle.
Vous l'abordez aussi, Martine,
oui. Oui, d'ailleurs, moi je parle de mon grand-père qui était italien et qui avait fui le régime de Mussolini et qui m'a qui m'a appris une chanson, Bella Ciao. Voilà.
On va l'écouter, Bella Ciao, une chanson des partisans.
Voilà, qui va devenir une chanson de résistance. Quoi.
De résistance qui sera reprise par l'occasion de beaucoup de révoltes
voilà,
ou de révolutions.
Et récemment par Maître Gibbs.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno.
Bella Ciao, un chant repris dans de nombreuses révoltes et révolutions par la suite, qui exprimait la fuite des réfugiés devant le fascisme italien. Abordons, on l'a déjà un petit peu touché du doigt comme ça, ces questions de termes, de terminologie qui vont parcourir la construction de l'État français, à savoir peuple, nation, liberté, citoyenneté, démocratie et d'autres encore. Dans votre spectacle, Gérard Noiriel ou conférence gesticulée, Martine Derrier, C'est aussi, on entend aussi un petit peu cette question-là de qui fait partie du clan, quoi.
Voilà, hein, oui.
Les termes, qui fait partie de la citoyenneté. Par exemple, partons de ce terme-là, la citoyenneté, disons à peu près inventée à la Révolution française.
Oui, alors il y avait déjà
Gérard, oui.
Il y avait déjà des formes antérieures, tout dépend de la définition qu'on en donne, mais politiquement, effectivement, la question de la citoyenneté s'impose pendant la Révolution, hein, puisque c'est justement la rupture avec l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, les individus sont des sujets, ils n'ont pas la voix au chapitre. La Révolution française, donc, impose la catégorie de citoyens, et les citoyens, non seulement ils sont libres et égaux entre eux, mais ils participent à la vie de l'État. Et donc, c'est ça qui est déterminant. Le problème, c'est de savoir comment et qui, par quelle modalité.
Voilà, c'est ça. Parce que, dès le départ, il y a des citoyens actifs et des citoyens passifs.
Voilà, c'est le problème. Les philosophes du XVIIIe siècle avaient pensé à ça, notamment Rousseau. Ils avaient comme idéal la démocratie athénienne, hein. Donc où là, le nombre de citoyens, enfin les gens se réunissaient sur la place publique, évidemment pas les esclaves ni les métèques, etc. Et donc ils pouvaient décider ensemble comme ça. Mais là, on est dans un État qui a il y a près de 30 millions d'habitants, un immense territoire, etc. Donc la question se pose différemment et c'est la question de la délégation de pouvoir. Et très vite s'impose l'idée que c'est les plus compétents, les plus cultivés, etc., qui doivent exercer la citoyenneté et non pas les classes populaires. Donc là, il y a un clivage qui va aboutir à l'émergence des sans-culottes qui contestent ce pouvoir des notables. La moitié des élus élites, du tiers état étaient des avocats, hein, donc,
et souvent des propriétaires.
Des propriétaires, oui, parce qu'il faut, dans cette idée de compétence, il y a l'idée qu'il faut avoir du temps pour s'occuper des affaires de l'État. Donc un paysan, un domestique, ça, ils ne peuvent pas le faire. Et puis il y a une notion aussi masculine, hein, les femmes sont exclues de la citoyenneté parce qu'on considère qu'elles sont dépendantes, elles ne sont pas autonomes, donc elles n'ont pas la possibilité de participer à la vie de l'État.
Et alors, sur ces questions-là aussi, la justification, il y a eu à un moment l'abolition de l'esclavage, mais c'est quand même revenu, et puis après il y a encore les colonies. La République qui se justifie sur cette question-là, il y a souvent des raisonnements assez tordus. Quoi.
Oui, parce que l'histoire montre aussi que ceux qui ont du pouvoir essayent toujours de légitimer leur pouvoir. Donc, quand la réalité devient contradictoire avec leurs idéaux, ils bricolent, ils fabriquent, et c'est le cas de Jules Ferry, quoi, parce que la colonisation, les républicains étaient contre, quand c'était Napoléon III qui l'a développé. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils vont la justifier avec l'idée que, mais nous, c'est pas comme Napoléon III, nous, c'est pour la bonne cause. Nous, c'est parce qu'on va aller aider les peuples opprimés, stupides et tout. On va leur apporter la culture et voilà. Donc, il y a une justification de ce type-là.
Et l'appartenance aussi à la nation, l'idée de nation, c'est aussi un terme qui parcourt l'histoire, qui a mis du temps avant d'arriver à celle qu'on connaît à peu près aujourd'hui.
Le mot nation, ça vient du latin natio, naître. C'est un mot qui existe depuis le Moyen-Âge, mais au sens politique, ça date du XVIIIe siècle. Hein. Mais ce que je montre dans le livre, c'est que le concept de nation devient sociologiquement opérationnel seulement sous la Troisième République. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle la nationalisation de la société française, quand il y a le droit de la nationalité, quand on commence à fermer les frontières, quand on commence à imposer des papiers d'identité aux étrangers, etc. Là, il y a un basculement qui nous ouvre le monde dans lequel on vit encore aujourd'hui.
Et qui va un peu de pair avec ce dont tu parlais juste avant, la racialisation.
Oui, ça va de pair, mais il y a une différenciation qui est faite. C'est-à-dire, il y a un clivage fondamental, c'est eux et nous, hein, dans toute l'histoire. À la fin du XIXe siècle, le nous, c'est le nous français qui s'impose, en raison de la guerre de 70, de la revanche par rapport à l'Alsace-Lorraine, et eux, c'est les étrangers. Mais au sein des étrangers, on distingue deux catégories, les étrangers qui sont nos ennemis, ça c'est les Allemands, et les étrangers qui sont nos inférieurs, ça c'est les colonisés. Voilà le clivage qui se met en place à ce moment-là.
Yeah. Alors, démocratie aussi, tu en as parlé un peu, hein, démocratie, l'action directe ou représentative. Voilà. Hein, c'est un peu l'idée des sans-culottes, l'action directe.
Oui, des sans-culottes qu'on retrouve dans toutes les grandes luttes sociales, hein, la Commune de Paris, même sous le Front Populaire, et puis les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont posé cette question de l'action directe, hein, à leur manière, parce qu'à chaque fois, la question est posée différemment, mais c'est la suite d'un sentiment de dépossession de la part du peuple, alors que les élites parlent toujours au nom du peuple. Donc les gens se disent, ils parlent en notre nom, mais nous, on ne nous demande rien. Quoi. C'est un petit peu la contradiction.
On prépare une nouvelle conférence gesticulée, hein, qui s'appelle « Quand le peuple gronde ». et des ongles bleus aux gilets jaunes.
Des ongles bleus.
Voilà, les ongles bleus, c'est, j'en parle un petit peu, c'est en Flandre au XIIIe siècle, XIIe siècle même déjà, XIIe siècle, c'était des artisans qui fabriquaient des étoffes, et donc comme ils plongeaient les mains dans les bains, ça leur donnait les mains bleues par le fait. Donc c'est pour ça qu'on commence avec ces révoltes.
On a fait d'ailleurs une autre conférence avant qui s'appelle On a raison de se révolter. Et puis on a d'autres conférences, toujours tirées du livre de Gérard, hein, qui vont se mettre en place. Hein, je pourrais dire les fils invisibles du capitalisme, masculin, féminin, dire sa souffrance au nom de Dieu. Je suis vieux, mais je me soigne.
Dire sa souffrance au nom de Dieu, c'est un chapitre du livre.
Voilà, voilà. C'est parce qu'on essaye de... Mais évidemment, à chaque fois...
On prend un chapitre, une conférence.
Ce sera, voilà, mais ça sera étendu. Hein. Là, je l'utilise. Ouais. Parce que je pense que la religion, évidemment, on peut l'aborder à toutes les époques. Hein. Ouais. C'est encore un problème d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est l'idée et de...
Alors, les prochaines, justement, on arrive un petit peu vers la fin, là. Les prochaines présentations de la conférence théâtralisée, gesticulée, nos ancêtres. Les migrants.
On intervient aussi dans les lycées. Hein.
Ouais.
Donc là, on va être à Metz. On intervient dans les centres sociaux de quartier, ouais, à Stein. On sera à Lyon dans une médiathèque, la médiathèque de la Part-Dieu. On va être à Chambéry.
On retrouve toutes ces informations
sur le site de Daja.
Alors aujourd'hui aussi, il y a Tu évoques aussi ce terme, encore, je reviens sur un dernier terme, diversité versus injustice sociale, en fait. Hein. On parle de diversité pour cacher un peu l'injustice sociale.
Alors là, je dirais plutôt identité, hein, plutôt que diversité, parce que la diversité, enfin, moi, je montre qu'elle est nécessaire, c'est sûr. On est dans des sociétés, plus les sociétés avancent sur le plan démocratique, plus elles se diversifient. Mais ce que je mets en cause, c'est les manipulations identitaires. Je montre dans l'histoire, j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs, à propos de l'Empire colonial, la fabrication des races par le pouvoir colonial, c'est justement une manière de focaliser sur l'identitaire pour faire que les gens s'opposent entre eux autour de leur couleur de peau et masquer les questions économiques et sociales.
Les questions sociales, économiques.
Donc, et ça, on le retrouve à toutes les époques. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on pourrait prendre des questions d'actualité. Il y a une volonté des dominants, de ceux qui nous gouvernent, des ultra-riches, tout ce que vous voulez, pour voilà, qu'on ne parle pas de ça et qu'on mette les choses sur l'islam, sur ceci, sur cela.
Alors que vous évoquiez dès le départ du spectacle que tous les êtres humains partent de l'Afrique et que nos gènes se partagent à 99,8%.
Donc, vous voyez, combien toutes ces questions de race, etc., sont complètement superficielles.
Voilà, on évoque beaucoup ces questions-là dans le spectacle, mais on reste optimiste aussi en parlant de tout ce qui se fait avec les associations et de façon individuelle.
Oui, parce que nous, on tourne beaucoup dans toute la France et on voit quand même, il y a une générosité, énormément de gens. Ce n'est pas ceux qu'on voit à la télé, hein. Mais il y a énormément d'actions.
Vous repérez qu'il y a ces alliances, qu'il y a ces mouvements sociaux, ces révoltes qui perdurent, qui continuent, qui n'arrêtent pas,
qui
se renouvellent, qui se réinventent.
Voilà, le mouvement des Gilets jaunes était une illustration. Hein.
Alors, si je peux me permettre, tu fais un petit point sur le programme d'Emmanuel Macron.
En conclusion,
En conclusion, et tu évoques justement peut-être cet aspect qu'il ne voit pas ou qu'il ne regarde pas, qui est justement... que beaucoup de, finalement, des évolutions sociales et d'évolutions sur le territoire français viennent de ces mouvements, de ces révoltes, de cette mémoire de révolte dont les dominants, finalement, ont pris acte et ont participé à des transformations. Tu indiques, convaincu que les innovations viennent toujours d'en haut, donc ça, c'est Macron dans son livre, des managers, des actionnaires ou des ingénieurs, Emmanuel Macron ne peut pas comprendre le rôle que les classes populaires ont joué dans les mutations de notre histoire collective. Comme je l'ai montré tout au long des chapitres de ce livre, ce qui permet d'affirmer le caractère populaire de l'histoire de France, c'est le lien social, c'est-à-dire les relations qui se sont nouées au cours du temps entre des millions d'individus assujettis à un même État depuis le XVe siècle et grâce auquel a pu se construire un « nous » français. Les classes supérieures et moyennes ont été dans l'obligation de tenir compte des activités, des points de vue, des initiatives, des résistances propres aux classes populaires, afin de mettre en œuvre des formes de développement autres que celles qu'elles avaient imaginées au départ. Et réciproquement, les représentations du peuple français que les élites ont construites au cours du temps, les politiques qu'elles ont conduites, ont profondément affecté l'identité, les projets, les rêves et les cauchemars des individus. Voilà, merci à vous.
Merci
beaucoup, Gérard Noiriel. Merci Martine Derrier. Merci Gabriel à la régie. On vous salue. Rendez-vous citoyen le mois prochain, deuxième mardi de chaque mois. Au revoir.